Dite livre, histoire romaine, livre 1, quatrième partie, Tullus Hostilius, 672 à 641 avant Jésus-Christ. Avènement de Tullus Hostilius, la déclaration de guerre avec Albe. La mort de Numa ramena un interrègne. Mais le peuple élu roi Tullus Hostilius, petit-fils de cet Hostilius qui s'était illustré contre les Sabins, dans le combat au pied de la citadelle. Le Sénat ratifia l'élection. Ce prince, loin de ressembler à son prédécesseur, était d'une nature plus belliqueuse encore que Romulus. Sa jeunesse, sa vigueur, et la gloire de son aïeul animaient son courage. Persuadé qu'un état s'énerve dans l'inaction, il cherchait de toutes parts des prétextes de guerre. Le hasard voulut que des laboureurs des pays de Rome et d'Albe se livrassent les uns envers les autres à des déprédations réciproques. Albe alors était gouvernée par Caius Cluilius. Chaque parti envoya presque dans le même temps des ambassadeurs pour demander réparation. Tullus avait ordonné aux siens d'exposer avant tout leurs requêtes. Il s'attendait à un refus de la part des Albains, ce qui lui fournissait un légitime sujet de guerre. Les Albains mirent plus de lenteur dans la négociation. Accueillis par Tullus, admis à sa table, ils rivalisèrent avec le prince de prévenance et de courtoisie. Dans cet intervalle, les députés romains avaient présenté leurs réclamations, et sur le refus des Albains, ils leur avaient déclaré la guerre pour le 30e jour. Tullus en est informé. Il mande alors à une conférence les députés d'Albe et les requiert d'expliquer le motif de leur voyage. Ceux-ci, ne sachant pas encore ce qui s'est passé et afin de gagner du temps, allèguent de vaines excuses. C'est bien malgré eux qu'ils s'exposent à déplaire à Tullus, mais ils subissent la loi de leurs instructions. Ils viennent réclamer la restitution de ce qu'on leur a enlevé, et s'ils ne l'obtiennent, ils ont ordre de déclarer la guerre. À cela Tullus répond. Annoncez donc à votre roi que le roi des Romains atteste les dieux que celui des deux peuples qui le premier a dédaigné de faire droit à la requête des députés doit être responsable des conséquences funestes de cette guerre. Les Albains portent chez eux cette réponse. Des deux côtés, on se prépare avec ardeur à la guerre. Ce conflit avait tout le caractère d'une guerre civile, car il mettait pour ainsi dire aux prises les pères et les enfants. Les deux peuples étaient de sang troyen. Lavinium tirait son origine de Troie, Albe de Lavinium, et les Romains descendaient des rois d'Albe. Cependant, l'issue de la guerre rendit la querelle moins déplorable. On ne combattit point en bataille rangée. On détruisit seulement les maisons de l'une des deux villes, et la fusion s'opéra entre les deux peuples. Les Albains envahirent les premiers, avec une armée formidable, le territoire de Rome. Leur camp n'en était pas à plus de 5000. Ils l'avaient entouré d'un fossé, lequel fut pendant quelques siècles appelé du nom de leur chef, le fossé Cluilius, jusqu'à ce que le temps eût fait disparaître et la chose et le nom. Cluilius étant mort dans le camp, les Albains créent dictateur Metius Fufetius. Mais le fougueux Tullus, dont l'audace s'était accrue par la mort de Cluilius, s'en va publiant partout que la vengeance des dieux, après s'être manifestée d'abord sur la personne du chef, menace de punir du crime de cette guerre impie quiconque porte le nom Albin. Puis, à la faveur de la nuit, il tourne le camp ennemi et envahit à son tour le territoire d'Albe. Ce coup de main fait sortir Métius de ses retranchements. Il s'approche le plus possible de l'ennemi et de là, envoie un émissaire à Tullus, avec ordre d'exposer au roi l'utilité d'une entrevue avant d'engager l'action, et que s'il accorde cette entrevue, il a, lui, Métius, à faire des propositions dont la teneur intéresse Rome et Albe tout ensemble. Tullus ne se refuse point à l'entrevue, quoiqu'il en attende peu de fruits, et range son armée en bataille. Le même mouvement s'exécute parmi les Albes. Alors, le général Albin prend la parole. Des attaques injustes, dit-il, du butin enlevé contre la foi des traités, réclamés et non rendus, sont les causes de cette guerre. Ce sont celles du moins que j'ai entendu donner par notre roi Cluilius, celles que tu produiras sans doute aussi toi-même, ô Tullus. Mais sans recourir à des raisons spécieuses et pour déclarer ici la vérité, je dis que l'ambition seule arme l'un contre l'autre deux peuples voisins, deux peuples unis par les liens du sang. Si nous faisons bien ou mal, c'est ce dont je ne décide pas. Ce soin regarde les auteurs de la querelle. Quant à cette guerre, comme chef des Albains, je dois la soutenir. Je veux te soumettre un simple avis. Nous sommes environnés, toi et les miens, par la nation étrusque. Le danger est grand pour tous, plus grand même pour vous. Et vous le savez d'autant mieux que vous êtes plus voisins. Les Étrusques sont tout-puissants sur terre et plus encore sur mer. Souviens-toi qu'au moment où tu donneras le signal du combat, ce peuple, les yeux fixés sur les deux armées, attendra que nous soyons épuisés et affaiblis pour attaquer à la fois le vainqueur et le vaincu. Puis donc qu'au lieu de nous contenter d'une liberté assurée, nous courons les chances de la servitude en convoitant la conquête d'une domination douteuse, au nom des dieux, trouvons un moyen qui, sans dommages sérieux pour les deux peuples et sans effusion de sang, puisse décider enfin lequel des deux doit commander à l'autre. Tullus, bien que l'espérance de la victoire le rendît plus intraitable, agréa néanmoins cette proposition, mais tandis que les deux chefs cherchaient ce moyen, la fortune prit soin de le leur fournir. La conclusion du premier traité et le combat des Horaces et des Curias. Il y avait par hasard dans chacune des deux armées trois frères jumeaux, à peu près de même force et de même âge. C'étaient les Horaces et les Curias. L'exactitude de leur nom est suffisamment constatée, et les annales de l'Antiquité offrent peu d'actions aussi illustres que la leur. Toutefois, cette illustration même n'a pas prévalu contre l'incertitude qui subsiste encore aujourd'hui, de savoir à quelle nation les Horaces, à laquelle les Curias appartenaient. Les auteurs varient là-dessus. J'en trouve cependant un plus grand nombre qui font les Horaces romains, et j'incline vers cette opinion. Chacun des deux rois charge donc ses trois frères de combattre pour la patrie. Là où sera la victoire, là sera l'empire. Cette condition est acceptée et l'on convient du temps et du lieu du combat. Préalablement, un traité conclu entre les Romains et les Albains porte cette clause principale, que celui des deux peuples qui resterait vainqueur exercerait sur le vaincu un empire doux et modéré. Dans tous les traités, les conditions varient. La formule de tous est la même. Voici l'acte de cette espèce, le plus ancien qui nous ait été transmis. Le Fécial, s'adressant à Tullus, lui dit « Roi, m'ordonnes-tu de conclure un traité avec le père Patra du peuple albain ?» Et sur la réponse affirmative, il ajouta « Je te demande l'herbe sacrée. » « Prends-la pure, » répliqua Tullus. Alors le Fécial apporta de la citadelle l'herbe pure, et s'adressant de nouveau à Tullus, « Roi, dit-il, me nommes-tu l'interprète de ta volonté royale et de celle du peuple romain des Kyrites? Agrées-tu les vases sacrés, les hommes qui m'accompagnent ?»« Oui, répondit le roi, sauf mon droit et celui du peuple romain. » Le fécial était Marcus Valerius. Il créa per patra Spurius Fusius, en lui touchant la tête et les cheveux avec la verveine. Le per patra prêta le serment et sanctionna le traité. Il employa à cet effet une longue série de formules consacrées qu'il est inutile de rapporter ici. Ces conditions lues, le fécial reprit « Écoute, Jupiter, écoute, patra du peuple albin, écoute aussi, peuple albin. Le peuple romain ne violera jamais le premier les conditions et les lois. Les conditions inscrites sur cette tablette ou sur cette cire viennent de vous être lues, depuis la première jusqu'à la dernière, sans ruse ni mensonge. Elles sont dès aujourd'hui bien entendues pour tous. Or, ce ne sera pas le peuple romain qui s'en écartera le premier. S'il arrivait que par une délibération publique ou d'indignes subterfuges il les enfreignît le premier, alors, grand Jupiter, frappe le peuple romain comme je vais frapper aujourd'hui ce porc, et frappe-le avec d'autant plus de rigueur que ta puissance et ta force sont plus grandes. » Il finit là son imprécation, puis frappa le porc avec un caillou. De leur côté, les Albains, par l'organe de leur dictateur et de leur prêtre, répétèrent les mêmes formules et prononcèrent le même serment. Le traité conclu, les trois frères de chaque côté prennent leurs armes suivant les conventions. La voix de leurs concitoyens les anime. Les dieux de la patrie elle-même, tout ce qu'il y a de citoyens dans la ville et dans l'armée ont les yeux fixés tantôt sur leurs armes, tantôt sur leurs bras. Enflammés déjà par leur propre courage et enivrés du bruit de tant de voix qui les exhortaient, ils s'avancent entre les deux armées. Celles-ci étaient rangées devant leur camp, à l'abri du péril, mais non pas de la crainte, car il s'agissait de l'Empire, remis au courage et à la fortune d'un si petit nombre de combattants. Tous ces esprits tendus et en suspens attendent avec anxiété le commencement d'un spectacle si peu agréable à voir. Le signal est donné. Les six champions s'élancent comme une armée en bataille, les glaives en avant, portant dans leur cœur le courage de deux grandes nations. Tous, indifférents à leur propre danger, n'ont devant les yeux que le triomphe ou la servitude, et cet avenir de leur patrie, dont la fortune sera ce qu'ils l'auront faite. Au premier choc de ces guerriers, au premier cliquetis de leurs armes, dès qu'on vit étinceler les épées, une horreur profonde saisit les spectateurs. De part et d'autre, l'incertitude glace la voix et suspend le souffle. Tout à coup, les combattants se mêlent. Déjà, ce n'est plus le mouvement des corps, ce n'est plus l'agitation des armes, ni les coups incertains, mais les blessures, mais le sang, qui épouvante les regards. Des trois Romains, deux tombent morts l'un sur l'autre. Les trois Albains sont blessés. À la chute des deux Horaces, l'armée albaine pousse des cris de joie. Les Romains, déjà sans espoir mais non sans inquiétude, fixent des regards consternés sur le dernier Horace, déjà enveloppé par les trois cuirasses. Par un heureux hasard, il était sans blessure, trop faible contre ses trois ennemis réunis, mais d'autant plus redoutable pour chacun d'eux en particulier. Pour diviser leur attaque, il prend la fuite, persuadé qu'ils le suivront selon le degré d'ardeur que leur permettront leurs blessures. Déjà il s'était éloigné quelque peu du lieu du combat lorsque, tournant la tête, il voit en effet ses adversaires le poursuivre à des distances très inégales et un seul le serrer d'assez près. Il se retourne brusquement et fond sur lui avec furie. L'armée albaine appelle les Curias au secours de leur frère, mais déjà vainqueur, Horace vole à un second combat. Alors un cri, tel qu'en arrache une joie inespérée, part du milieu de l'armée romaine. Le guerrier s'anime à ce cri, il précipite le combat, et sans donner au troisième Curias le temps d'approcher de lui, il achève le second. Il restait deux seulement, égaux par les chances du combat, mais non par la confiance ni par les forces. L'un, sans blessure et fier d'une double victoire, marche avec assurance à un troisième combat. L'autre, épuisé par sa blessure, épuisé par sa course, se traînant à peine et vaincu d'avance par la mort de ses frères, tend la gorge au glaive du vainqueur. Ce ne fut même pas un combat. Transporté de joie, le Romain s'écrie « Je viens d'en immoler deux aux mains de mes frères. Celui-ci, c'est à la cause de cette guerre. C'est afin que Rome commande aux Albains que je le sacrifie. » Curias soutenait à peine ses armes. Horace lui plonge son épée dans la gorge, le renverse et le dépouille. Les Romains accueillent le vainqueur et l'entourent en triomphe, d'autant plus joyeux qu'ils avaient été plus près de craindre. Chacun des deux peuples s'occupe ensuite d'enterrer ses morts, mais avec des sentiments bien différents. L'un conquérait l'Empire, l'autre passait sous la domination étrangère. On voit encore les tombeaux de ces guerriers à la place où chacun d'eux est tombé, les deux Romains ensemble, et plus près d'Albe, les trois Albains du côté de Rome, à quelque distance les uns des autres, suivant qu'ils avaient combattu. Mais avant qu'on se séparât, Métius, au terme du traité, demande à Tullus ce qu'il ordonne. « Que tu tiennes la jeunesse albaine sous les armes, répond Tullus, je l'emploierai contre les Veïens, si j'ai la guerre avec eux. » Les deux armées se retirent ensuite. Horatia et le procès de Perduellio. Horace, chargé de son triple trophée, marchait à la tête des Romains, portant devant lui les trois dépouilles. Sa sœur, qui était fiancée à l'un des Curias, se trouve sur son passage, près de la porte Capène. Elle a reconnu sur les épaules de son frère la cotte d'armes de son amant, qu'elle-même avait tissée de ses mains. Alors, s'arrachant les cheveux, elle redemande son fiancé et l'appelle d'une voix étouffée par les sanglots. Indignée de voir les larmes d'une sœur insulter à son triomphe et troubler la joie de Rome, Horace tire son épée et en perce la jeune fille en l'accablant d'imprécations. « Va, lui dit-il, avec ton fol amour, rejoindre ton fiancé, toi qui oubliais tes frères morts et celui qui te reste, et ta patrie. Périsse ainsi toute Romaine qui osera pleurer la mort d'un ennemi. » Cet assassinat révolte le peuple et le Sénat. Mais l'éclat de sa victoire semblait en diminuer l'horreur. Toutefois, il est traîné devant le roi et accusé. Le roi, craignant d'assumer sur sa tête la responsabilité d'un jugement dont la rigueur soulèverait la multitude, et craignant plus encore de provoquer le supplice qui suivrait le jugement, convoque l'assemblée du peuple. « Je nomme, dit-il, conformément à la loi, des doumvirs pour juger le crime d'Horace. » La loi était d'une effrayante sévérité. « Que les doumvirs jugent le crime, disait-elle. Si l'on appelle du jugement qu'on prononce sur l'appel, Si la sentence est confirmée, qu'on voile la tête du coupable, qu'on le suspende à l'arbre fatal, et qu'on le batte de verge dans l'enceinte ou hors l'enceinte des murailles. Les Doumvirs, d'après cette formule de la loi, n'auraient pas cru pouvoir absoudre même un innocent après l'avoir condamné. Publius Horatius, dit l'un d'eux, je déclare que tu as mérité la mort. Va, lecteur, attache-lui les mains. Le lecteur s'approche et déjà passé la corde. Lorsque sur la vie de Tullus, interprète Clément de la loi, Horace s'écrie « J'en appelle !» La cause fut alors déférée au peuple. Tout le monde était ému, surtout entendant le vieil Horace s'écrier que la mort de sa fille était juste, qu'autrement, il aurait lui-même, en vertu de l'autorité paternelle, sévi tout le premier contre son fils. Et il suppliait les Romains qu'il avait vu la veille père d'une si belle famille de ne pas le priver de tous ses enfants. Puis embrassant son fils et montrant au peuple les dépouilles des curiaces suspendues au lieu nommé encore aujourd'hui le pilier d'Horace, « Romain, dit-il, celui que tout à l'heure vous voyez avec admiration marcher au milieu de vous triomphant et paré d'illustres dépouilles, le verrez-vous lié à un infâme poteau, battu de verges et supplicié? Les Albains eux-mêmes ne pourraient soutenir cet horrible spectacle. Va, lecteur, attache ces mains qui viennent de nous donner l'Empire. Va, couvre d'un voile la tête du libérateur de Rome. Suspends-le à l'arbre fatal. Frappe-le dans la ville si tu veux, pourvu que ce soit devant ses trophées et ses dépouilles. Hors de la ville, pourvu que ce soit parmi les tombeaux des curiaces. Dans quel lieu pourrez-vous le conduire, où les monuments de sa gloire ne s'élèvent point contre l'horreur de son supplice? Les citoyens, vaincus et par les larmes du père et par l'intrépidité du fils, également insensibles à tous les périls, prononcèrent l'absolution du coupable, et cette grâce leur fut arrachée, plutôt par l'admiration qu'inspirait son courage que par la bonté de sa cause. Cependant, pour qu'un crime aussi éclatant ne restât pas sans expiation, on obligea le père à racheter son fils en payant une amende. Après quelques sacrifices expiatoires, dont la famille des Horaces conserva depuis la tradition, le vieillard plaça en travers de la rue un poteau, espèce de joug sous lequel il fit passer son fils la tête voilée. Ce poteau, conservé et entretenu à perpétuité par les soins de la République, existe encore aujourd'hui. On l'appelle le poteau de la sœur. On éleva un tombeau en pierre de taille à l'endroit où celle-ci reçut le coup mortel. La guerre contre Veii et la trahison de Mettius Fufetius. La paix avec les Albains ne fut pas de longue durée. Le dictateur n'eut pas assez de fermeté pour résister à la haine du peuple qui lui reprochait d'avoir abandonné le sort de l'État à trois guerriers. L'événement ayant trompé ses bonnes intentions, il eut recours à la perfidie pour recouvrer la faveur populaire. De même qu'il avait cherché la paix dans la guerre, de même il chercha la guerre dans la paix. Mais trouvant dans les siens plus de courage que de force, il fait un appel aux autres peuples. Il les pousse à déclarer la guerre à Rome, à la lui faire ouvertement. Il se réserve à lui et aux siens la faculté de trahir, tout en conservant les apparences d'une union sincère. Les Fidénates, colonie romaine, associent les Veiens au complot. Et encouragés par les assurances de Mettius qui promettait de se joindre à eux, ils prennent les armes et se préparent à la guerre. Quand la révolte a éclaté Tullus donne ordre à Métius de venir avec ses troupes, marche ensuite aux ennemis, traverse l'Anio, et vient camper au confluent de cette rivière et du Tibre. Les Veiens avaient passé le Tibre entre ce point et la ville de Fidène. Leur ligne formait l'aile droite et se déployait sur les bords du fleuve. À l'aile gauche étaient les Fidénates, plus rapprochés des montagnes. Tullus conduit ses soldats contre les Veiens et oppose les Albains au corps d'armée des Fidénates. Métius n'était pas plus brave que fidèle. Aussi, n'osant ni garder le poste qui lui est confié, ni passer ouvertement à l'ennemi, il se rapproche insensiblement des montagnes. Lorsqu'il se croit assez loin des Romains, il commande halte à sa troupe. Puis, ne sachant plus que faire, il déploie ses colonnes pour gagner du temps. Son dessein était de porter ses forces du côté où tournerait la fortune. Les Romains qui gardent leur position s'étonnent d'abord d'un mouvement qui laisse leur flanc à découvert. Mais bientôt un cavalier accourt à toute bride informer Tullus que les Albains se retirent en effet. Tullus épouvanté fait vœu de consacrer à Mars 12 prêtres saliens et de bâtir un temple à la pâleur et à la peur. Il ordonne ensuite au cavalier d'une voix menaçante et assez haute pour être entendue de l'ennemi de retourner au combat et de ne point s'alarmer, ajoutant que le mouvement des Albains s'exécute d'après son ordre pour prendre à dos les Fidénates. Il lui commande en même temps d'enjoindre aux cavaliers de tenir les lances hautes. Cette manœuvre habile dérobait à la plus grande partie de l'infanterie romaine la vue de la retraite des Albains. Quant à ceux qui avaient aperçu cette retraite, trompés par les paroles du roi qu'ils croyaient sincères, ils en combattent avec plus d'ardeur. La terreur gagne les Fidénates. Ils avaient entendu aussi la réponse du roi et l'avaient comprise, car la plupart d'entre eux ayant été détachés de Rome pour fonder la colonie, savaient la langue latine. Craignant que les Albains, descendus brusquement des hauteurs, ne leur coupent le chemin de la ville, ils lâchent pied et tournent le dos. Tullus les presse, met en déroute le corps des Fidénates, et revient avec plus d'audace contre les Veiens, étourdis déjà de la défaite de leurs alliés. Les Veiens ne peuvent soutenir le choc, ils se débandent et prennent la fuite. Mais le fleuve, qui coule sur leur derrière, les arrête. Arrivés sur ses bords, les uns jettent lâchement leurs armes et s'élancent au hasard dans les flots, les autres, hésitant entre la fuite et le combat, sont égorgés au milieu de leurs irrésolutions. Dans aucune bataille, les Romains n'avaient encore versé tant de sang ennemi. L'écartèlement de Métius fut fœtus. Alors l'armée albaine, qui était demeurée spectatrice du combat, descend dans la plaine. Métius félicite Tullus de sa victoire et Tullus le remercie avec bonté. Pour assurer les heureux effets de cette journée, Tullus ordonne aux Albains de réunir leur camp à celui des Romains et prépare pour le lendemain un sacrifice lustral. Dès qu'il fait jour et que tout est prêt, il convoque, suivant la coutume, les deux armées à une assemblée générale. Les héros, commençant l'appel par les derniers rangs, font avancer les Albains les premiers. Ceux-ci, curieux de voir ce qui allait se passer et d'entendre la harangue du roi des Romains, se tiennent tout près de sa personne. La légion romaine, aux ordres de Tullus, se range toute armée autour des Albains. Les centurions avaient ordre d'exécuter avec promptitude tout ce qui leur serait commandé. Tullus alors commence en ces termes. « Romains, si jamais dans aucune guerre vous avez dû rendre grâce d'abord aux dieux immortels et ensuite à votre courage, ce fut dans le combat d'hier. En effet, vous avez eu à vous défendre non seulement contre les armes de vos ennemis, mais, chose bien plus dangereuse, contre la trahison et la perfidie de vos alliés. car afin que vous ne demeuriez pas plus longtemps dans l'erreur, sachez que je n'avais point ordonné aux Albains de gagner les montagnes. Il est vrai que je feignis d'avoir donné cet ordre, mais c'était par prudence et pour ne pas vous décourager en vous dévoilant la désertion de Métius. C'était encore pour effrayer les ennemis et les mettre en désordre en leur faisant croire qu'ils allaient être enveloppés. Je n'accuse pas tous les Albains. Ils ont suivi leur chef, comme vous m'auriez suivi moi-même si j'avais voulu changer mes dispositions. Métius seul a dirigé le mouvement. Métius, le machinateur de cette guerre. Métius, le violateur du traité juré par les deux nations. Mais je veux désormais qu'on imite son exemple si je ne donne pas aujourd'hui en sa personne une éclatante leçon aux mortels. Alors les centurions armés entourent Métius. Tullus continue. Pour le bonheur, la gloire, la prospérité du peuple romain et de vous aussi, peuple d'Albe, j'ai résolu de transporter à Rome tous les habitants d'Albe, de donner le droit de cité au peuple et aux grands le droit de siéger au Sénat, de ne faire en un mot qu'une seule ville, un seul État. Albe s'était jadis partagée en deux peuples, et bien qu'elles se réunissent maintenant en un seul. À ces mots, les Albains sans armes au milieu de cette troupe armée sont agités par des sentiments divers. Mais contenus par la terreur, ils gardent le silence. Tullus reprend. Métius Fufétius, si tu pouvais encore apprendre à garder la foi des traités, je te laisserais vivre pour recevoir de moi cette leçon. Mais la perfidie est un mal incurable. Que ton supplice enseigne donc aux hommes à croire à la sainteté des lois que tu as violées. De même que tu as partagé ton cœur entre Rome et Fidène, de même ton corps sera partagé et ses lambeaux dispersés. On fait approcher ensuite deux chars, attelés de 4 chevaux, et Tullus y fait lier Métius. Les chevaux lancés en sens contraire entraînent chacun avec l'un des chars, les membres déchirés et sanglants de Métius. Tous les regards se détournent de cet horrible spectacle. C'était le premier, et ce fut le dernier exemple, parmi les Romains, d'un supplice où les lois humaines aient été méconnues. C'est même un de leurs titres de gloire d'avoir préféré toujours les châtiments plus doux. La destruction d'Albe et ses incidences sur Rome. Cependant, on avait déjà détaché la cavalerie pour transporter à Rome tous les habitants d'Albe. On y conduisit ensuite les légions pour détruire la ville. À leur entrée, elles ne virent point ce tumulte, ni cette terreur, qui trouble d'ordinaire les villes conquises lorsque les portes ont été brisées, les murs renversés par le bélier et la citadelle emportée d'assaut, lorsque l'ennemi pousse des cris de mort, court et se répand dans les rues, et porte partout le fer et la flamme, une tristesse morne et silencieuse serrait tous les cœurs. On ne savait que laisser, que prendre. La crainte leur avait ôté le conseil. On s'interrogeait les uns les autres. Ceux-ci restaient immobiles sur le seuil de leur porte. Ceux-là erraient à l'aventure au sein même de leur maison pour les revoir une dernière fois. Mais quand la voix menaçante des cavaliers leur enjoignit de sortir, quand le fracas des maisons abattues se fit entendre de toutes les extrémités de la ville, que la poussière soulevé de toutes parts et du milieu des ruines, enveloppa l'espace d'un nuage épais. Alors chacun emporta précipitamment ce qu'il put et s'éloigna, abandonnant ses lares, ses pénates, le toit sous lequel il était né, sous lequel il avait grandi. De longues files d'émigrants remplissaient les rues. Le spectacle de leur misère commune renouvelait leurs larmes. On entendait aussi des cris lamentables, ceux des femmes surtout, lorsqu'elles voyaient en passant les temples des dieux investis de soldats, et les dieux eux-mêmes qu'elles laissaient, pour ainsi dire, en captivité. Dès que les Albains furent sortis, les édifices publics, les maisons privées, furent indistinctement rasés. Albe existait depuis 400 ans. Une heure suffit à sa dévastation et à sa ruine. On épargna pourtant les temples des dieux. Tullus l'avait ainsi ordonné. Cependant, Rome s'augmentait des débris de sa rivale et doublait le nombre de ses habitants. Le mont Célius est ajouté à la ville, et pour y attirer la population, Tullus y bâtit son palais et y fixe sa demeure. Il veut aussi que le Sénat ait sa part dans l'agrandissement de l'État, et il ouvre les portes de ce conseil auguste au Tullius, au Servilius, au Quinctius, au Gaeganius, au Curiatius et au Clélius. Pour les membres du Sénat devenus ainsi plus nombreux, Tullus fait construire un édifice qu'il destine à leurs assemblées et qu'on appelle encore aujourd'hui le Palais Hostilius. Enfin, pour que l'adjonction du nouveau peuple fût profitable en quelque chose à tous les ordres de l'État, il crée 10 compagnies de chevaliers, choisies tous parmi les Albains. Il complète ainsi ses anciennes légions et en forme de nouvelles tirées du sein de cette même population. Guerre contre les Sabins. Alors plein de confiance dans ses forces, Tullus déclare la guerre aux Sabins, la nation la plus considérable à cette époque et la plus belliqueuse après les Étrusques. Les deux peuples se plaignaient réciproquement de quelques injures dont on avait inutilement demandé la réparation de part et d'autre. Tullus alléguait que près du temple de Féronie, des marchands romains avaient été arrêtés en plein marché. Les Sabins, qu'on avait retenu quelques-uns de leurs concitoyens prisonniers à Rome, quoiqu'ils se fussent réfugiés dans le bois sacré, c'étaient là les prétextes de la guerre. Les Sabins, qui n'avaient pas oublié que Tatius avait transporté à Rome une partie de leurs forces, et que la puissance romaine venait encore de s'accroître par la réunion des Albains, cherchèrent autour d'eux des secours étrangers. Voisins de l'Étrurie, ils confinaient au territoire des Veiens, lesquels, dominés encore par le ressentiment d'anciennes défaites, n'étaient que trop portés à une rupture. Toutefois, les Sabins n'en purent tirer que quelques volontaires. L'argent le ramena aussi quelques aventuriers de la dernière classe du peuple. La cité elle-même ne leur fournit aucun secours. Et, chose moins surprenante de la part de tout autre peuple, le respect pour la trêve conclue avec Romulus arrêta les Veiens. On faisait donc de part et d'autre les plus grands préparatifs. Mais comme le succès pouvait dépendre beaucoup de la promptitude avec laquelle on préviendrait l'ennemi, Tullus entre le premier sur le territoire des Sabins. Un combat sanglant eut lieu près de la forêt Malitiosa. L'excellence de leur infanterie et surtout l'augmentation récente de leur cavalerie y servirent puissamment les Romains. La cavalerie, par une charge soudaine, mit les Sabins en désordre. Ils ne purent ni soutenir le choc, ni se rallier, ni s'ouvrir un chemin pour fuir. On en fit un grand carnage. La mort de Tullus Hostilius. Rome goûtait déjà les fruits de cette victoire si glorieuse pour le règne de Tullus et pour elle si féconde, lorsqu'on annonça au roi et au sénateur qu'une pluie de pierres était tombée sur le mont Albin. Comme on avait peine à croire ce prodige, on envoya sur les lieux pour s'en assurer. Ceux qui furent chargés de ce soin virent en effet tomber du ciel une grande quantité de pierres, aussi pressées que la grêle lorsque le vent la chasse sur la terre. Ils crurent même entendre sortir d'un bois sacré au sommet de la montagne une voix retentissante qui ordonnait aux Albins de faire des sacrifices suivant le rite de leur pays, car ce devoir avait été négligé, comme si, en quittant leur patrie, les Albins eussent aussi abandonné leur dieu, soit pour adopter ceux des Romains, soit par mépris de toute religion, ce qui est l'effet ordinaire du ressentiment contre la mauvaise fortune. Les Romains, de leur côté, en expiation de ce prodige, célébrèrent des sacrifices publics qui durèrent 9 jours. Et soit que la voix céleste du mont Albin eût au rapport de la tradition prescrit cet usage, soit que les aruspices l'eussent conseillé, il est certain qu'il fut maintenu, et que des fêtes se succédaient pendant 9 jours toutes les fois que le même prodige se répétait. Peu de temps après, Rome fut désolée par une maladie pestilentielle qui inspira le dégoût absolu de la guerre à ses habitants. Mais le belliqueux Tullus ne leur donnait point de relâche. Il estimait le séjour des camps plus propice que celui des villes à maintenir le corps en santé. Enfin, il ressentit lui-même les atteintes du fléau. L'épuisement de ses forces accabla cet esprit turbulent, et ce prince, qui trouvait indigne d'un roi de s'occuper de religion, donna tout à coup dans les superstitions même les plus frivoles, et remplit la ville de cérémonies religieuses. À son exemple, les Romains, revenant aux habitudes qui avaient marqué le règne de Numa, crurent que l'unique remède à leurs maux était d'apaiser et de fléchir les dieux. On dit même que Tullus, ayant découvert, en feuilletant les livres de Numa, le récit de certains sacrifices secrets institués en l'honneur de Jupiter et Lycius, se cacha pour vaquer à ces mystérieuses cérémonies, mais qu'ayant négligé, soit dans les préparatifs, soit dans la célébration, certains rites essentiels, il n'évoqua le fantôme d'aucune divinité, et que Jupiter, irrité au contraire de semblables profanations, frappa de sa foudre le prince et le palais, et les consuma tous deux. Tullus régna 32 ans, et laissa une glorieuse réputation militaire.